On est dans Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Et on en est dans cette série, comment se comporter dans la maison de Dieu. On est dans ce livre où ce que l'apôtre Paul écrit à son padawan en termes modernes, à son apprenti, l'homme qui l'a formé pendant 10, 15 ans, et là, il l'a laissé à Éphèse. Et là, il lui envoie une lettre pour lui donner des recommandations qui vont être lues devant l'Église. Et le premier chapitre, le dernier chapitre, parle beaucoup de sa recommandation, ce qu'il a donné comme mission. Et à partir du deuxième chapitre, on est dans toutes sortes de sujets qui couvrent, une panoplie de sujets sur des choses pratiques qu'il doit corriger dans l'Église, instruire l'Église et rectifier. Et cette phrase-là ici, comment se comporter dans la maison de Dieu, c'est ce qui est dit à la fin du chapitre 3. Et je t'écris pour ça, pour que tu aies des conseils en attendant que je vienne, sur comment on se comporte, parce que même si le corps de Christ et l'Église est le corps de Christ, donc est un organisme vivant, composé de gens, et qu'on ne veut pas passer notre temps à faire de l'organisation du corps de Christ, de cet organisme vivant, il y a un minimum d'organisation qu'on doit faire à mesure qu'il y a de plus en plus de gens. Parce que plus qu'il y a de gens, plus il y a d'opinions, plus il y a d'expériences, plus il y a de pécheurs rachetés, mais qui combattent aussi avec leur chair, le quotidien du chrétien, et que là, tout à coup, il peut y avoir toutes sortes d'opinions sur des sujets, toutes sortes de manières de faire. Moi, j'étais à l'autre église, on faisait ça de même, je préfère comme ça. Et toutes sortes d'opinions sur comment on devrait faire la louange, toutes sortes d'opinions sur comment devrait être le prédicateur, comment devrait être la louange à l'église, comment on fait la prière en église, comment on fait l'école du dimanche. Et là, c'est facile d'avoir de la chicane. Je sais, vous avez jamais vu ça dans une église, mais il y a des églises, vous savez. Peut-être que vous avez entendu, au loin de vous, là, dans un autre pays peut-être, pas au Québec, où ce qu'il y a parfois de la chicane. On va le laisser dans d'autres pays, nous on va apprendre de leurs erreurs et pas faire ça chez nous, amen. Mais on va essayer d'apprendre de eux, ceux ailleurs, dans la région, mettons, de Éphèse, qui ont des problèmes, pour pas que ça arrive chez nous en titre préventif, OK? Donc, pour ceux qui ne se sentent pas concernés, on veut quand même apprendre des expériences des autres. Et malgré que, donc, l'organisme est un organisme vivant, il faut l'organiser un minimum. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'opinions. Et donc, il doit adresser certains problèmes, les veuves, c'est qui lead dans l'Église, quand on est ensemble, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, quand il y a des problèmes, comment on les règle, s'il y a une accusation, qu'est-ce qu'on fait. Et donc, il doit donner un minimum de consignes pour qu'il y ait de l'ordre et que ça soit pas le chaos et l'anarchie dans l'Église et que ça soit finalement le plus fort qui dirige, le plus crieur, le plus éduqué ou le plus cisque, qui a tel trait là, qui contrôle tout, puis que finalement on sente comme... Parce qu'on ne sait pas exactement sur quel pied danser dans l'Église face à toutes sortes de situations. Le livre de Timothée nous donne ce genre d'informations comme Église et comme dirigeant, et c'est tellement important. Sinon, ben on a l'anarchie. Peut-être que vous êtes déjà arrivé dans une Église où c'était un cirque. Le désordre. Et c'est pas agréable, le sentiment d'être dans un endroit où tu dis, oh boy, il y a comme, ils ont perdu le contrôle ici, là, où tu sais pas c'est qui fait quoi, où il y a des conflits, puis tu sais pas par où que ça commence, où il y a des choses qui se passent, tu dis, mais vieux, ça. Effectivement, il y a un manque de leadership. On n'est pas en train d'écouter ce que la Bible nous dit sur comment on se comporte, puis on règle les choses dans l'Église. Et là, finalement, on devient une Église syndicaliste, ou une Église dirigée par le plus fort, ou une Église dirigée par un sexe ou l'autre sexe, ou toutes sortes de choses. Donc, c'est important ce qu'on est en train de lire. Et chose intéressante, le premier sujet, dans tous les sujets que Paul adresse pour de l'ordre dans l'Église, c'est quoi? Vous savez c'est quoi? La prière. Il y a de quoi nous désarmer. Hein? On ne serait pas attendu à ça. Et pourtant, il nous parle de prière dans l'Église. Parce que même dans la prière, il peut y avoir du désordre. Et même dans la prière, il y a toutes sortes de conceptions sur qu'est-ce qu'on fait avec la prière. C'est quoi la prière? À qu'est-ce que ça sert dans la communauté chrétienne, la prière? C'est quoi sa place? Et il semble qu'elle a une première place. C'est numéro un, prière. Dans les choses qu'il veut adresser, dans les problèmes d'Église. C'est intéressant. Et celui qui vous parle ce matin n'est pas ici parce qu'il est l'expert sur la prière. Je suis comme chacun de vous, un être excessivement indépendant par nature et qui continuellement, d'un jour à l'autre, est en train d'avancer, à apprendre de plus en plus, à dépendre de Dieu. Et de proclamer ma dépendance par la prière, à parler à mon papa, à lui demander de l'aide, à prier pour des situations. Et donc, je ne viens pas ici devant vous comme modèle, je viens ici devant vous parce que j'enseigne le livre de Timothée. Et dans le livre de Timothée, je ne choisis pas les sujets. Et je n'ai pas choisi le livre de Timothée parce qu'il m'attirait. Je n'ai pas choisi le livre de Timothée parce que j'étais obligé. Le Seigneur me l'a mis à cœur et je n'ai jamais enseigné dans Timothée un seul sermon de ma vie jusqu'à présent. Et j'en ai prononcé des sermons, je vous l'assure. Je n'ai jamais enseigné dans Timothée. Et je vous dis, j'apporte ces enseignements au cours des prochaines semaines avec crainte et tremblement parce que c'est le Seigneur qui me le met sur le cœur de le faire. Mais il y a plein de sujets épineux et quand je vais avancer, vous allez vous dire, « Oh, pauvre Joël en avant, on va prier pour lui. Il doit adresser ce sujet-là. » Effectivement. Et donc, je ne le prends pas parce que j'ai le goût de mettre les pieds dans les plats. J'ai le goût d'être jugé. Je le fais par conviction. Et quand on expose un livre, on ne choisit pas les sujets. C'est la beauté de choses. Fait que si vous n'êtes pas content de ce que je prêche, dites-vous que je ne l'ai pas choisi. Ça fait partie du livre. Alors, si ça ne fait pas votre affaire, vous devrez effacer aussi un livre du Nouveau Testament pour être en bonne conscience. Mais il y a un paquet de sujets épineux, pas faciles, qu'il faut adresser. Et pourtant, l'Église de 2024 a besoin d'adresser ces sujets épineux. Les gens ont besoin d'entendre ce que la Bible a à dire sur ces sujets épineux et sur quel fondement ces sujets trouvent des bases solides pour prendre des décisions et comment les vivre. Et on commence avec la prière. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Je recommande donc. On vient de terminer la recommandation, puis avec ça, il transite avec ce donc, et il dit avant tout, ou en premier lieu. Voici ce que je commence dans mon livre en premier lieu à adresser dans la liste des choses après ma recommandation sur ta mission. Que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les humains. Et je traduis ici les hommes par tous les humains. Parce que des fois, ça vient, c'est quand c'est homme masculin, puis quand c'est homme générique. C'est un peu embêtant. Alors, je préfère la traduction pour tous les humains ici. Et je vais faire la distinction à mesure que j'avance dans le texte. Pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, et donc le gouvernement, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les humains. L'humain, au singulier, le Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui fut rendu au temps fixé et pour lequel j'ai été, moi, établi héros, ou proclamateur et apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, docteur des nations dans la foi et la vérité. Je veux donc, et là ici on est dans un verset de conclusion et un verset de transition aussi vers l'autre sujet qui touche les hommes et les femmes, un de ces petits et légers sujets épineux. Et je lis seulement le verset 8 qui vient toucher le sujet de la prière et qui va transiter à partir du verset 9. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant les mains vers le ciel, des mains saintes, sans colère ni dispute. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Parle-nous, enseigne-nous, s'il vous plaît. Que nos cœurs soient ouvert, comme on l'a chanté tantôt. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à t'entendre toi. Et que tu aies libre, un champ libre, Seigneur, pour adresser les sujets que tu voudras dans mon cœur, dans le cœur de chacun de nous. Accorde-nous de corriger ce matin les fausses conceptions qu'on a sur la prière. Peut-être est-ce là qui explique trop souvent le manque de prière dans ma vie, dans nos vies. Aide-nous ce matin à saisir ce que tu veux me dire personnellement. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. le sujet de la prière. Ce matin, en toute simplicité, je vais adresser ces versets en 6 observations bien simples qu'on retrouve à travers le texte. Et les premiers quelques mots commencent par nous dire cette simple vérité que je vous ai dit tantôt. Elle souligne la priorité de la prière dans l'Église. La prière est une priorité pour nous. Il dit, je commence par toucher ce sujet-là. Évidemment, quand on parle de prière, tristement, nous devons constater que la prière dans l'Église n'est pas l'activité principale de l'Église en général. C'est à peine qu'on pourrait dire que des fois, la prière est un sideline pour l'Église, si vous me suivez. Si on passe une feuille d'inscription pour la prochaine réunion de prière, tristement, nous allons découvrir un certain nombre de personnes, un très petit groupe, dont une majorité sont des leaders de l'Église, qui viendront par culpabilité pour être sûr que le leader qui s'occupe de la réunion ne soit pas seul. Et il y aura peu de gens pour prier, surtout s'il faut se déplacer. Et que si on passe une feuille pour le repas communautaire, il va y avoir beaucoup de monde, parce que les chrétiens, on est fort sur la nourriture, on aime beaucoup manger ensemble, évidemment. Des bons mangeurs. Mais tristement, on n'est pas des super bons prieurs. Je suis dur, vous êtes d'accord avec moi? Pas convaincu. Vous avez de l'air pas sûr. Je suis dur ou ça fait du bon sens? C'est ce que vous voyez aussi? Fait que mon but, ce n'est pas de vous culpabiliser en disant ça. C'est juste un simple constat, n'est-ce pas? Parce que la prière, c'est, je suis en train de déclarer que je fais forfait sur mes efforts et que j'ai besoin de Dieu. Et généralement, nous, ce qu'on fait, comme un bon petit gars de 5 ans qui apprend à attacher ses souliers, c'est qu'il fait tout pour éviter de demander de l'aide à papa ou à maman. Puis quand tu es en train de brailler, ça fait 20 minutes que tu t'asseyes, tu le diras même pas à papa et maman. C'est tes pleurs qui vont attirer papa et maman. Puis là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a?
Je n'ai pas attaché mes souliers.
Puis là, il faut que tu devines ce que tu as entendu. Et vous savez, Dieu doit faire ça avec nous autres. On ne lui demande pas de l'aide. Après ça, on chiale, on ne lui a pas demandé de l'aide. Là, il vient près de nous parce qu'il nous aime. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu brailles de même? Puis il ne comprend rien, mais il sait, parce qu'il connaît nos cœurs. Il dit, mais je suis là, tu peux me le demander. Vous me suivez? Est-ce qu'on n'est pas tous et chacun, par nature, ce petit garçon, cette petite fille de 5 ans qui va attacher tout seul ses souliers? Qui, même devant l'échec et de la misère, a demandé l'aide à Dieu. Quel défi! Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Avant de même faire une décision, Seigneur, je m'apprête à faire une décision. Veux-tu m'éclairer, s'il vous plaît? Ou ferme les portes. Si c'est ta volonté, permets que ça avance. Si ce n'est pas ta volonté, bloque ça. Moi, c'est juste un char, Seigneur, que j'achète, mais je vais acheter le char que toi, tu choisis, Seigneur. Je veux que tu sois dans toutes mes décisions, Seigneur. Non, généralement, c'est « Ah là, Seigneur, ça va vraiment mal, là. Il y a tel problème. Là, j'ai tout essayé, là. Je suis vraiment à bout puis épuisé. Il n'y a plus personne qui m'aide. Tout le monde est écœuré même d'entendre m'en parler. Fait que là, je viens te voir. Tu peux-tu m'aider, s'il vous plaît? » C'est plus au cri de désespoir qu'on prie. Au bout du compte, quand on a tout épuisé, nos moyens humains. Parce qu'à la fin de la journée, c'est une lutte intérieure de l'humain de dépendre de Dieu. Dans tout et dans rien. On trouve les choses trop stupides pour les confier à Dieu. Ben là, acheter un char, là, c'est une décision, là. Dieu n'est pas là-dedans. Ah ouais? Dieu n'est pas là-dedans. Est-ce que Dieu n'est pas dans ma décision d'acheter un char? Posons-nous la question. Dieu n'aime pas juste ça réparer nos chicanes qu'on ne sait pas comment régler, tu sais. Que là, on est un peu plus... Mais toutes les petites choses... Dieu est un Père céleste qui veut être dans toute notre vie la priorité, nous accompagner. Je suis avec vous tous les jours. Fait que s'il est avec nous tous les jours, ça veut dire qu'il veut être dans toutes les sphères de ma vie. n'est-ce pas? Pas juste ceux que je décide ou que je trouve gros pour moi, puis que je trouve niaiseux à parler à Dieu de tout ça. Il n'y a rien de niaiseux pour Dieu. Bon, il y a un enfant hier à la jeunesse qui a dit que prier pour des problèmes liés à mon jeu vidéo, ça c'est niaiseux. C'est vrai que sur le coup, j'ai eu de la misère à dire le contraire. D'accord, Marie? On s'est posé la question, ouais, peut-être ça c'est niaiseux. Je ne sais pas finalement, mais c'était embêtant, je vous avoue. Mais ça venait en toute simplicité d'un petit garçon de 10 ans, qui ça débordait de son cœur. Mais Dieu veut faire partie comme pas dans toutes les décisions de ma vie. Y a-t-il des décisions cette semaine? Et tu dis, ah, c'est vrai, Dieu n'était pas dedans, puis c'est comme si dans ma tête, j'avais des justifications pour dire, je suis niaiseux, je n'ai pas besoin de mettre Dieu là-dedans. J'aimerais dire ce matin que Dieu veut être dans toutes tes décisions, parce que c'est ton papa. Tout compte pour lui dans ta vie, les petites et les grosses choses. Et tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un gros problème, puis que ta fille s'est fait frapper une personne, puis qu'il est là, tu te fais appeler par un avocat, puis pour commencer à prier. Ce n'est pas nécessaire. On peut prier bien avant, en amont de tout cela. Et vous savez, c'était tellement important qu'à un moment donné, est sorti cet adage chrétien. Écoutez bien ceci, vous l'avez déjà entendu certainement. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Pas de prière, peu de puissance. Les apôtres ont été confrontés à ce problème où ce que là, ils étaient dilués dans toutes sortes de demandes dans l'Église. Et vous savez, quand elles sont sorties, le besoin d'avoir des diacres, les disciples étaient débordés, on dit, dans Acte 6. Et là, ils ont dû établir des diacres. Pourquoi? Parce qu'ils disent, nous autres, il faut qu'on se concentre à deux choses. C'est quoi? Hein? L'enseignement, la parole et la prière. Hein? C'est ça qu'on est appelé comme pasteur, à être dans la prière et la parole de Dieu, l'enseigner. C'est notre appel. C'est assez... une vision réduite des choses simplifiées. Voilà, wow! Quel mandat! Quel mandat! Et ici, il nous incite à la prière, non à la culpabilité. Et il définit après ça, deuxièmement, la prière prend différentes formes. Et là, il mentionne quatre types de prières qu'il dit dedans. Puis c'est pas parce qu'il veut définir toutes les sortes de prières. Il y a d'autres mots qui sont utilisés, mais on est en train de dire qu'il y a différentes manières d'approcher Dieu pour différentes choses. Et là, il mentionne ici les demandes, des prières de manière un peu plus générique, c'est-à-dire d'intercéder pour un besoin, quelque chose à Dieu, en faveur de quelqu'un ou en faveur de soi-même, ou des supplications quand j'étais au bout du rouleau en désespoir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et des actions de grâce. Après l'épreuve, tu réalises c'est moins pire que tu pensais. Ah, oh, merci Seigneur, elle n'a pas eu d'accident d'auto. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Et souvent, on est forcé de constater qu'il y a une tendance chez nous où ce que nos prières souvent se regroupent plus dans un domaine ou un autre. Et le côté nord-américain est plus porté vers la demande, pour être bien honnête. Hein? On a généralement une bonne liste de prières. Pour Pitou, pour Minou, pour ma grand-maman qui a de la mauvaise santé, pour tel chrétien qui a une épreuve dans l'Église. On fait notre liste là, de choses, de besoins. Et on ne peut pas dire qu'il y a de l'équilibre nécessairement, toujours dans notre vie chrétienne, dans nos prières. Et c'est intéressant que l'apôtre Paul, à plusieurs occasions, parle de cette variété de prières qui font partie de la vie chrétienne, allant des besoins à des supplications de désespoir, à des besoins de toutes sortes, parce que le mot prière parle d'idée d'intervenir en l'avantage de, en allant vers Dieu, à l'avantage de quelqu'un, quelque chose pour soi-même, ou ce qu'on intercède. Et donc, la prière d'action de grâce qui complète cette liste également, là, qui nous dit dire merci à Dieu. C'est Chrysostome qui disait ceci il y a 1600 ans, un des pères de l'Église. Il dit ceci sur l'attitude que ça nous donne de prier en reconnaissance. Il dit, il veut unir tous les hommes, non seulement par la prière, mais aussi par l'action de grâce. Celui, en effet, qui peut bénir Dieu de tout le bien qui arrive au prochain, doit l'aimer et l'envisager comme un ami. Fait que quand je suis dans la reconnaissance, Merci, Seigneur, de ce qui arrive dans sa vie à lui et à elle. Ah, merci, il y avait tel problème de sa santé, ça s'est réglé. Ah, merci, Seigneur, pour avoir fait ça, puis ça, puis... Ah, merci, Seigneur, pour telle personne que tu as mis. Et il dit, quand tu pries, ça change ton attitude aussi envers les autres pour lesquels tu pries. Des fois, il y a des gens qu'on n'aime pas ou qu'on garde une colère contre eux parce qu'on n'est pas en train de prier pour eux. Puis tout à coup, quand on commence à prier pour la personne avec qui on a conflit, quand on prie, évidemment, pas que « Seigneur, casse-y les dents, Seigneur, humilie-le, montre-lui que j'ai raison, là. » Là, on prie pour soi, OK? C'est ça que ça veut dire, prier. Hein, c'est sur mon avantage. C'est pour ma vengeance, pour montrer que j'ai raison, là. Mais bien de prier pour le bien de l'autre. Mon attitude change. C'est dur de garder de la colère. C'est dur d'avoir des prières, des imprécations pour l'autre. Et c'est dur de ne pas être heureux des bien-être, du bien-être de l'autre, des belles choses qui arrivent dans sa vie, plutôt que de la jalousie. Et de la rancœur, l'incapacité finalement d'être heureux pour l'autre parce que je ne vois pas ce que Dieu me donne et je ne prie pas pour l'autre, fait que je n'arrive pas à avoir des sentiments de joie, d'appréciation pour l'autre. La vie de prière a un impact dans tous les domaines de notre vie et la variété de prières contribue à une variété de sphères de notre vie et de notre relation avec Dieu. Nos prières disent beaucoup. Hier, on était à la jeunesse. Puis il y avait un jeune homme qui avait interagi beaucoup dans la soirée, puis posait beaucoup de questions, mais surtout répondait beaucoup. Mais quand le petit gars il a prié à la fin, puis je l'ai entendu prier, le petit gars il avait compris la leçon de ce que Marco avait enseigné. Il avait tout résumé, les grandes lignes, très simplement, c'était pas une longue prière, c'était efficace, mais il avait prié, il avait compris la leçon, même les choses qu'il avait mal compris, il les a saisies, et là, il l'exprimait vraiment bien, il avait compris, ça me disait beaucoup sur lui, ce qu'il avait compris dans la dernière demi-heure. Juste en écoutant sa prière. Et Dieu entend nos prières, puis il voit ce qui se passe dans nos cœurs. Et l'idée ici, c'est pas d'écouter les autres pour analyser leurs prières, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais si on s'écoute soi-même, plutôt. Il y a beaucoup à apprendre sur la variété de prières. Posons-nous la question, Seigneur, suis-tu dans une prière plus que l'autre? J'ai-tu un déséquilibre dans cette variété de prières? Dans quel domaine je devrais commencer à bûcher un peu plus et d'être intentionnel? Qu'avant que je commence à demander des choses, est-ce que je vois tout ce que tu as fait cette semaine? Parce que je peux te demander plein d'affaires, mais si je ne vois pas ce que tu fais déjà, hein? Parce que, rappelez-vous, c'est notre Papa Céleste. On est ses fils et ses filles. Et qu'est-ce que ça fait des enfants auprès des parents, souvent? Hein, vous êtes tout en train de me dire, je te vois venir, je te vois venir. Ça demande des affaires. Ça ne dit pas beaucoup merci. N'est-ce pas? Et quand ils disent merci, qu'est-ce que ça vous fait à votre cœur de parent? Hein? Ah, là, le sourire vient. Hein? Oh, tu sais que tu l'as fait. Mais c'est le fun. Cette reconnaissance-là, ce sentiment que ce que j'ai fait a été apprécié, on est humain. Oui, Dieu, lui, il est parfait, mais c'est un père. Allez pas croire que Dieu, ça y dérange pas que tu dises jamais merci. Dieu est un père, il y a des sentiments. Et quelle joie pour Dieu le Père lorsqu'il voit qu'on voit ce qu'il a fait. Puis si tu n'as rien à remercier, ben peut-être ta première prière, c'est « Aide-moi, Seigneur, à voir ce que tu fais pour moi. Ouvre mes yeux. » À tes bontés. Rends-moi reconnaissant. C'est tellement important dans ma vie, dans mon développement de relation avec Dieu, de voir. Donc, cet équilibre, et je vous cite un verset que vous connaissez bien, et dans lequel Paul, justement, mentionne encore cette série de quelques différentes manières d'aborder Dieu. Et on l'a dans Philippiens, excusez-moi, 4, verset 7. 6 et 7, puis c'était justement les versets qu'avait choisi Marco hier pour l'activité de jeunesse. Ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas de l'anxiété pour rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, vos demandes à Dieu par des prières en général et la supplication avec des actions de grâce. Vous voyez encore répété? Et là, la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, donc c'est démesuré, cette paix-là, on n'arrive pas à la calculer tellement qu'elle est grande, elle va garder vos cœurs et vos pensées, après ça, dans cette attitude de reconnaissance paisible que tu n'as pas quand tu es dans l'anxiété, quand tu es dans l'inquiétude. Elle va venir rectifier ça parce que tu as été voir Dieu. Et là, Dieu va interagir avec ses pensées négatives, ses pensées d'inquiétude, ses pensées de solution que tu n'as pas, ses pensées de frustration, de colère qui hantent ton esprit. Et là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui est démesurée, va venir faire quelque chose que toi, tu ne peux pas calculer. Troisièmement, mes prières doivent être dirigées. Et là, ici, c'est intéressant, il va orienter vers trois groupes de personnes. Il dit, premièrement, pour tous les humains en général, je pensais que les chrétiens, nous, on devait juste prier pour les frères et sœurs. Non, tous les humains en général, et remarquez bien le tout, c'est un mot-clé ici, c'est pas compliqué, tout, parce qu'il va revenir, c'est tout lié ensemble, mais pour tous les humains. Deuxièmement, pour les rois et tous les supérieurs, les supériorités, donc les gouvernements, les policiers, les gens d'autorité, les juges, etc. Trois groupes sont mis là devant nous et c'est particulier dans deux de ces groupes-là. Il y a, oui, tous, mais il y a des gens en autorité. Et moi, je ne sais pas si dans votre version vous l'avez, mais il y a des versions que certains chrétiens ont, puis en parenthèse, c'est écrit, si vous avez voté pour eux, vous devez prier. Je ne sais pas si vous avez vu ces versions-là. De personne? OK. C'est bon, là, la même de bord. C'est bon. Je vais juste checker. Parce qu'il y en a qui ont la version seulement si tu as voté pour. J'ai pas voté pour Trudeau, fait que j'ai pas besoin de voter pour lui. Il n'était pas en harmonie avec ce que Dieu voulait, parce que moi, j'ai voté avec ce que Dieu voulait. Puis, clairement, bon, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, je prie pas pour Trudeau. Hein? C'était qui le dirigeant du peuple à l'époque où Paul est en train d'écrire? Il y en a qui se rappellent? Il y a un petit nom court, là, ben banal, là. Il n'a pas fait grand-chose, là, mais il s'appelle Néron. Ça vous dit quelque chose? Néron. Pas parce qu'il y avait le Néron, là, nécessairement, là, mais Néron. C'est un sympathique monsieur. Non loin de la culture des autres sympathiques empereurs là, qui, des fois, tuaient leur femme ou leur enfant ou quelqu'un qui les contrariait. Hein? Alors, si vous trouvez que Poutine y est rough, vous n'avez pas rencontré les Césars, hein? Les empereurs. Et Néron, à un moment donné, même un feu était parti, et vous avez peut-être entendu parler de ça, à Rome. Et qui a blâmé? Les chrétiens. Et en passant, ils n'ont pas voté pour, je pouvais le dire, là, demain, c'était pas super démocratique, là, fait que personne n'a voté. Il a peut-être tué 2-3 personnes en cours de route pour être nommé, en fait, ou celui d'avant. J'ai pas vérifié. Il dit, prie pour cet athée-là qui persécute les chrétiens, prie pour cet athée qui a nommé un autre athée dans ton pays, qui était probablement un gars acheté pour être là dans ton pays comme gouverneur, et prie pour ces gens-là qui font respecter souvent des sacrifices aux empereurs dans ta ville, qui favorisent que des temples de dieux païens soient construits et que la justice des chrétiens ne soit pas respectée. Prie pour eux. Je pense qu'on peut prier pour M. Trudeau. Finalement. C'est pas si pire que ça. Hein? Quand on se compare, on peut se consoler. Hein? On n'a pas tendance à faire ça, hein? À prier pour ceux qui gouvernent. On prie pour que le bon passe, puis après ça, ben là, on est pogné avec, fait qu'on endure. Mais on est. Et la raison est intéressante. Il dit que ça a une incidence sur nous. Il dit pour les chrétiens, c'est important parce que le choix de celui qui est là peut amener une vie paisible ou une vie difficile dans ta ville, dans ton pays, dans ta province. Prie pour ces hommes-là. Et si Dieu dit de prier, ça doit être que c'est parce que ça compte. Il y a quelque chose de bon dans cette prière-là qui peut changer l'avenir ou qui peut changer mon cœur, en tout cas. Vous me suivez? Ah, mais si Dieu ne l'a pas tassé, pendant 10 ans, j'ai prié pour lui. Dieu n'a pas fait de promesse sur s'il va le tasser ou pas, là. N'est-ce pas? Et je dis, prie pour lui. Puis c'est à ton avantage. Et l'avantage, bien, c'est que cela permet d'avoir une vie en toute piété et dignité. Et même, je vous lis littéralement les mots qui sont là. Il dit, et c'est un homme sage qui a dit ceci, il dit, la tranquillité qu'il parle ici fait allusion aux circonstances qui nous entourent, plus extérieures, alors que le deuxième mot, paisible, se réfère à notre calme intérieur. En conséquence, nous aurons je l'ai mal écrit. Une vie. Ah, c'est ça, une vie. J'ai pris une pie. Une vie pieuse et tranquille. Donc, il est en train de dire, ça va affecter ta tranquillité extérieure, les circonstances, puis aussi ton intérieur. Ça vaut la peine de prier pour les dirigeants. Que tu les aimes ou pas, ce n'est pas une question d'être d'accord avec leur position théologique, leur position politique, là où ils sont à gauche, à droite, au milieu, et whatever, toutes les nuances sur la ligne. Il n'y a rien de ça. C'est une prise de position que je veux obéir à Dieu, que c'est bon pour mon âme et que c'est bon pour ma paix extérieure et intérieure. Point à la ligne. Et Paul n'est pas le seul. Pierre a dit la même chose, n'est-ce pas? Si vous regardez dans l'épître de Pierre, il va parler de prier pour les rois. Il va faire 5 versets dans le chapitre 2 d'un Pierre pour toucher de différents leaders, etc., qu'il faut prier pour ces gens-là. Et ces gens-là n'étaient pas démocratiquement élus, OK? Il n'y en avait aucun démocratiquement élu là-dedans. Il dit, priez pour eux parce que ça a une incidence sur votre vie. Et certainement, ça a une incidence sur notre attitude. Et on est invité à les respecter et respecter les lois qu'ils ont instaurées malgré notre opposition à ces lois-là. Et jusqu'à temps que, finalement, ça nous empêche aussi de parler de l'Évangile. Et que là, on n'est pas obligé quand ça nous empêche de parler de l'Évangile. Mais il faut qu'être sage et pas mettre des empêchements à l'Évangile là où il n'y en a pas vraiment. Pendant la pandémie, on en a eu des nuances. Ah là, ils contrôlent l'Église, puis là, il y avait toute l'opinion, puis c'est là-dessus que ça se jouait beaucoup. Et des fois, il y avait des interprétations douteuses, des intentions mises pour justifier des décisions. Et ça nourrissait bien des vidéos YouTube inutiles qui mangeaient du temps pour rien aux chrétiens. On va se le dire. Mais c'est lié à notre dynamique avec l'autorité. Et c'est pas pour rien que Jésus, Paul, Pierre ont tous adressé cette dynamique avec l'autorité, sachant qu'on est des humains, nous aussi. Et on a tout un petit rebelle à l'intérieur qui dort, qui se réveille plus ou moins vite, selon les styles de règles qu'on est confrontés. Et que c'est un défi à relever. Et donc, il en parle, autant Paul que d'autres auteurs du Nouveau Testament. Maintenant, au cœur, ici, le quatrième et le cinquième point, la motivation dans la prière. Quelle est la motivation de nos prières? Bien, on nous dit au verset 3, « Cela est beau et agréable devant le Sauveur. » Et le mot ici, « agréable », apparaît seulement ici, dans le livre de Timothée. Il va apparaître aussi au chapitre 5, verset 4. Si vous voulez le regarder, vous pourrez le noter. Chapitre 5, verset 4, c'est 2 fois seulement dans le Nouveau Testament. Fait que tu dis, ah, si c'est agréable à Dieu, ça, quand même, c'est pas rien. Qu'on prie comme ça pour le gouvernement, il trouve que c'est une bonne chose, c'est bien, et c'est agréable à Dieu. Dieu aime entendre qu'on prie pour les gouvernements, parce que la Bible me dit qu'il n'y a aucun gouvernement qui est mis en place sans que ça soit fait sous la souveraineté du contrôle de Dieu. Même le plus crotté des gouvernements est permis par Dieu. Oui, ça nous fait beaucoup de questions. Pourquoi? Et j'aime bien la phrase qui nous dit souvent, on a souvent les gouvernements qu'on mérite comme peuple, surtout lorsqu'on vote pour eux. Hein? La majorité ont voté, bien, ils ont ce qu'ils méritent. Mais effectivement, Dieu a un contrôle sur la souveraineté des gouvernements. Mais quand je prie par la foi pour ces gouvernements que Dieu a mis en place, ça fait plaisir à Dieu, parce que c'est lui qui l'a permis. Et là, j'entre dans son plan. Je marche en harmonie avec le fait que je fais confiance à Dieu en priant pour ce gouvernement-là que j'aime ou que je n'aime pas. En priant pour lui à Dieu, j'entre dans la confiance qu'il est souverainement en contrôle. Amen. C'est pour ça que ça lui plaît et que ça lui est agréable. Pas parce que je suis d'accord avec, parce que je demeure en confiance que mon Dieu est souverain et que rien ne s'est passé à ces élections-là sans que Dieu l'ait permis. Et c'est ça qui calme mon cœur. Il n'y a pas d'autorité qui est en place sans que Dieu l'ait permis. Et c'est ça qui m'aide à trouver la paix. Il n'y a aucune personne qui est boss chez nous, au travail. Oh là là, ça vient plus proche, c'est plus dérangeant. Là. Ma boss, mon boss, présentement, sans que Dieu l'ait permis aussi. Le bon ou mauvais. Et quand je prie pour eux, j'harmonise ma foi avec sa souveraineté. Et qu'est-ce que ça fait? Je calme mon cœur. Je retrouve la paix. J'arrête de me débattre, de vouloir justifier, de paraître comme si, de me battre pour mon droit. C'est pas marcher dans la rue qui va changer quelque chose, les amis. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une place pour ça. Tandis, c'est pas là que mon énergie va changer quelque chose. Dieu dit que c'est à genoux que le chrétien change quelque chose. Dans la prière. Et ça, c'est pas dans la politique actuelle. C'est dans la Bible. C'est sous la gouverne de Dieu. Et donc, c'est quelque chose d'agréable à Dieu. Vous savez, les pharisiens, excusez-moi, le Père aime quand ses enfants prient, comme il leur a recommandé. Les pharisiens priaient pour être loués par les hommes, pour paraître, ou pour impressionner ceux qui étaient là, les autres adorateurs, on nous dit dans les évangiles. Les vrais chrétiens prient pour plaire à Dieu. Ceci implique que nous prions selon la volonté de Dieu, car prier de manière égoïste ne plaît certainement pas à notre Père céleste. On dit souvent que le but de la prière n'est pas que les volontés de l'homme se réalisent dans les cieux, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Et c'est ce qu'on fait en faisant cela. La deuxième chose qui est notée ici au verset 5, verset 4, c'est que tous les humains, il veut qu'ils soient sauvés. Donc la deuxième prière, c'est agréable à Dieu, mais la deuxième, c'est parce qu'il veut que tous les humains soient sauvés. Donc il est en train de nous dire que quand tu pries pour tous les humains, tu pries pour qu'ils soient sauvés. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Je vous relis. Qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Donc, la deuxième motivation, c'est, après avoir plu à Dieu, c'est le salut des êtres humains. Combien de nos prières sont orientées vers le salut des âmes? Que celui qui est perdu puisse venir qu'à connaître Jésus. Pas juste qu'il soit guéri, parce qu'il peut être guéri, comme il y a des gens qui ont rencontré Jésus et n'ont pas été sauvés. Vous vous rappelez cette histoire des 10 lépreux, n'est-ce pas? Combien sont venus finalement avoir... Ils ont tous été guéris égal, hein? Il n'y en a pas un qui était plus guéri que l'autre. Il y en a combien? Eh, 1 sur 10. Moi, des fois, j'ai coutume de me dire, ça va beaucoup avec la phrase de Jésus, hein? Il y a eu beaucoup d'appelés, il y a beaucoup que je guéris, je fais des bénédictions, mais peu d'élus, peu de gens qui acceptent mon invitation et qui disent oui. Je vais croire en toi. C'est pour le salut des âmes ici qui est question. Et vous savez, personnellement, là, je crois sincèrement que je suis le fruit des prières de ma mère, tout en particulier. Ma mère priait beaucoup. Et quand elle m'a mis à l'école maison pour mes années d'incarcération pendant 4 ans, c'était ça sa prière. « Seigneur, je fais le sacrifice, puis c'est pas ma facilité, je suis pas super discipliné, je suis pas bon de faire la discipline de mon fils, mais je le fais par conviction, il faut que je le rentre en dedans. Il faut qu'il rentre en dedans. Puis il y a besoin d'école de réforme, mais surtout, il y a besoin de ta réforme dans son cœur, Seigneur, parce que moi, je peux bûcher, mais si tu le réformes pas, moi, il m'a bûché. Mais je vais faire ma part, Seigneur. On va faire l'éducation à la maison, on va le ramener à la maison, on va faire vraiment 1 000 de plus parce qu'il y a des choses qu'on a manquées, on est des jeunes parents, on va rectifier les affaires, on va prendre des cours, puis c'est ce que mes parents ont fait. Puis ma mère priait, « Seigneur, fais de lui qu'il puisse se convertir puis qu'il puisse te donner sa vie parce que là, il y a de l'air qui va s'enligner pour être un bandit tellement qu'il n'écoute pas, il ne veut rien savoir, il se bat, il fait juste des niaiseries, il cherche de l'attention, ou ceux qui sont à la maison, il fait ce qu'il veut, je n'ai pas de contrôle sur lui, ça m'inquiète. » Et le Seigneur se faisait achaler continuellement par ma mère. Puis le Seigneur, ça lui faisait plaisir, il n'a jamais chialé. « T'arrêtes-tu, Irène, de m'achaler avec ton fils? Tu n'es pas le seul qui a un fils, là. Il y en a plein d'autres qui me le demandent. » Non, Seigneur, il n'a jamais dit ça. Et dans sa grâce, la semence que Dieu avait semée dans mon cœur à 5 ans, Seigneur l'a fait germer. Ça a pris 2 ans avant qu'il se passe une coupure bien radicale qui a fait un gros changement. Et ça a passé par un accident, une hospitalisation, de la souffrance pour m'amener à une prise de conscience à 10 ans. Et je savais que Dieu me parlait. À 10 ans, je savais que Dieu me parlait et je savais très bien c'était quoi qu'il me disait. Et j'ai répondu, par la grâce de Dieu. J'aurais pu m'entêter, mais les prières de ma mère harcelaient Dieu. Amen. Et Dieu les a entendues. On ne sait pas quand est-ce que Dieu va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire présentement que je ne sais pas dans le cœur, mais Dieu entend. Et ça y fait plaisir. pour le Seigneur. Il aime que tous soient sauvés. J'ai écrit un petit paragraphe ici que je ne me sens pas à l'aise de résumer. Je vais vous le lire tout simplement. C'est deux petits paragraphes, en fait. Deuxièmement, il demande de prier pour les âmes. Voilà la volonté de Dieu. Nous devons prier pour tous les humains, sans distinction. Car son désir, c'est que tous les humains soient sauvés. Ça va bien jusque-là. Il n'y a pas d'exception à tous. C'est son désir pour tous. Et Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde, donc entier, afin que quiconque, donc ce n'est pas exclusif, n'importe qui, puisse croire en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est mort dans le monde entier. Pour le monde entier, on nous dit dans 1 Jean, dans la petite épître de Jean. Et dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 12, verset 32, il est dit, et il dit lui-même, dans cette histoire, juste après, c'est le chapitre de Lazare, qu'il est mort, qu'il avait le pouvoir d'attirer à lui tous. Il veut attirer tous vers lui. C'est son désir. Évidemment, ça ne veut pas dire que tous seront sauvés sans exception, par contre. Mais que l'offre est donnée à tous sans distinction de nationalité, de sexe, de statut social, d'éducation, peu importe. Ces versets notent aussi la responsabilité de choix, une décision, d'où la patience de Dieu aussi dans 2 Pierre, quand il dit que Dieu n'est pas encore venu parce qu'il désire que tous ne périssent point, mais qu'ils viennent à la repentance, la conversion. Donc, si on vit aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tous viennent. C'est son désir, tous, il est toujours là, son désir. Sa patience, aujourd'hui, manifeste son désir qu'il n'y a pas d'exclusivité, que tous. C'est cette patience qui montre bien que Dieu a à cœur cette vérité et qui le rend possible. On était bien. Il rend possible tous par l'offre qui est là et par le temps qu'il donne et qui explique qu'on n'est pas encore sous le jugement et que celui-ci est retardé. Mais le salut passe par la connaissance de la vérité ici. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie, la vérité de l'Évangile, la vérité de ce que Jésus a fait, la vérité que je suis pécheur, la vérité que je suis perdu sans lui et la vérité que c'est juste lui qui peut me pardonner. C'est ça la vérité de l'Évangile, la bonne nouvelle. Certaines choses nous échappent évidemment sur ce mystère qui entoure le souverain contrôle de Dieu, que tout est décidé par Dieu, et la part de responsabilité que j'ai aussi sous la gouverne de Dieu. Il y a des éléments qui nous échappent dans tout cela, mais ces deux vérités cohabitent dans les Écritures indiscutablement, malgré le mystère des expliquer ensemble. Et ce mystère se trouve seulement solutionné dans l'harmonisation que Jésus fait à la croix. C'est lui qui harmonise la souveraineté de Dieu et ma décision, et qui la rend possible, qui fait le pont devant ce mystère qu'il y a entre ma responsabilité sous l'invitation et le sacrifice offert de Dieu par son Fils. Jésus est l'harmonisation de ces deux sphères de vérité qui cohabitent dans les Écritures. De plus, la prière a une place importante, nous dit les Écritures, et le dit Paul ici, dans le programme de Dieu pour rejoindre le monde. Donc, nos prières font partie de rejoindre le monde entier. Prions donc pour ces âmes perdues, nous dit Paul, pas juste ici, mais dans Romains. Soyons disponibles à partager ce message de vérité essentiel à la réception du message de l'Évangile en proclamant la vérité. Pas juste des vérités sur le vaccin, pas juste des vérités sur la Bible, pas juste des vérités sur le gouvernement, pas juste des vérités sur un arnaque. Ça ne sauve pas, ça. La vérité, Jésus. Vous savez, Dieu répond aux prières et récemment, ma femme et moi, on a expérimenté une réponse aux prières de ma femme récemment qui nous ont marqués. Il y a, il y a 5 semaines, on l'avait un dimanche matin, le 17 décembre, et on avait un repas communautaire le lendemain. Et ma femme priait le soir, juste avant, elle dit, « Seigneur, permets que le temps qu'on va avoir avec une personne soit significatif. Je ne sais pas qui te choisit, avec qui qu'on va manger demain midi, mais je te prie pour les personnes, puis que ce soit quelque chose, qu'on puisse avoir un cœur à cœur, que ce soit pas juste du superficiel, puis qu'on prenne des nouvelles, mais qu'il y ait quelque chose qui nous montre que, ah, OK, c'était vraiment de Dieu, là, la discussion, puis ce qui est arrivé. » Okay? Elle avait fait cette prière-là, la dernière pastorale provinciale qu'on a eue, une rencontre avec beaucoup de pasteurs, puis on a eu une rencontre vraiment géniale avec un autre couple qu'on connaissait moins. Puis on a eu un temps là, vraiment de connexion. Et donc, elle fait cette même prière-là. Le lendemain, je suis en train de prêcher, et je suis en train de prêcher sur le pardon. Et ma femme est en train de prier pendant la prière. Il y a un petit message qui vient, et elle commence à prier pour ses fils, pour nos fils. Et là, elle prie les noms des garçons, et particulièrement pour deux ou trois des garçons que c'est difficile avec, plus vieux. Et pendant que ma femme est en train de prier et que moi, je suis en train de prêcher sur le pardon, le fils qu'on n'avait pas vu depuis un an et demi presque était là. Il était dans la salle et on ne le savait pas. Je ne voyais pas la personne en haut. Il était là avec sa copine. Aucune idée qu'il était là. Puis Dieu merci que je ne le savais pas pendant. Ça m'aurait certainement affecté. Et pendant qu'elle prie, le fils pour lequel elle prie est là, assis, où M. Clément est assis. Mais je ne sais pas. Dieu répond à sa prière avant même qu'elle prie pendant la prédication. Dieu a répondu à sa prière le soir même, avant même que tout ça arrive. Et on l'a invité à dîner. Et on a eu un excellent temps avec notre fils et sa copine qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas vu depuis près d'un an et demi. Et qu'on n'avait pas parlé avec non plus, pour des raisons qui sont difficiles. Et que je ne veux pas entrer dedans parce que c'est plus intime. Mais je pense que l'essentiel, vous l'avez là. Et que ça m'a fait du bien de savoir les prières de ma femme le soir d'avant et pendant ce temps-là, qu'elle m'a partagé dans l'après-midi. J'ai fait comme, quel bien-être pour mon âme de voir Dieu à l'œuvre et qu'est-ce qu'il avait amené là et qu'il avait répondu à la prière d'une mère. Il n'y a pas eu le salut sur l'heure du midi. Il y a eu une réponse aux prières, une étape. Amen. Et peut-être que vous avez quelqu'un comme ça présentement, que le Seigneur veut que vous priez pour, que votre cœur est lourd. Que le Seigneur veut te dire, décourage-toi pas. Arrête pas. Continue à prier pour ton fils, pour ta fille. Le Seigneur le sait. Il conjugue le féminin et le masculin quand je me trompe. Pour ton conjoint, ta conjointe. Pour la personne que tu es découragée de prier pour, puis que tu as perdu peut-être espoir de prier. À cause de ça, ça se manifeste que ce n'est plus dans tes prières. Ça nous arrive, hein? Qu'on n'est plus comme cette femme qui achalait le juge, hein? Puis qui continuait. Puis qu'à un moment donné, il nous a dit, non, persévérez. Et peut-être ce matin, c'est la seule chose que Dieu veut que tu entendes. Persévère. Arrête pas. Décourage-toi pas. Continue, Dieu. Apprécie que tu cognes aux portes du ciel auprès de ton papa, tu communiques ta foi, tu communiques un désir qui est en harmonie avec Dieu, c'est agréable et il veut que tous viennent au salut, cette personne-là également. Amen. Décourage-toi pas. Continue. Mais il continue sur quelle base maintenant je prie? Qu'est-ce qui fait que je peux prier? Regardez bien trois images qui sont partagées ici et qui sont frappantes. Et je les résume brièvement. La première, pourquoi je peux prier? Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, un homme, Christ Jésus. La première question qu'on devrait se poser, c'est quoi un médiateur? Oui, il y en a qui ont peut-être déjà rencontré un médiateur conjugal. Hein? Je vous résume en deux phrases. Qu'est-ce qu'un médiateur? Celui qui intervient entre deux parties. On comprend que les deux parties ne sont pas en paix. Soit pour faire ou pour restaurer la paix et l'amitié ou mettre en forme un accord entre les deux parties, n'étant pas capable de le faire tout seul. Il y a besoin de quelqu'un. Ou pour la ratification d'une alliance entre deux parties. Un intermédiaire de communication ou un arbitre. Et on voit ça dans les domaines syndicaux, n'est-ce pas? Des fois, il y a des arbitres qui sont envoyés pour aider. Ou hockey. Il y a un conflit pour avoir un contrat, puis les joueurs autonomes, ils mettent un arbitre. Il y a un arbitrage qui se fait pour trouver un entre-deux qui est respectueux des deux parties et des règles en place, parce que les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. Et combien ça arrive souvent. Et vous savez, l'être humain et Dieu sont en conflit. Et la Bible nous dit qu'il fallait qu'il y ait un médiateur, un arbitre entre les deux, entre Dieu parfait et l'homme pécheur. Christ, Jésus. Le Messie, Jésus. Mais avant, il dit quelque chose de vraiment important. Et là, je ne vous le dirai pas. Le mot juste avant, vous devez regarder dans votre Bible. Sinon, vous n'en rappellerez pas peut-être de ce détail-là. Qu'est-ce que ça dit sur le Christ Jésus ici? Comment? Un homme, un être humain, un humain. Alors, Dieu, dans sa bonté, n'envoie pas lui seulement. Il envoie un humain parmi nous. Mais Dieu incarné en homme, c'est ce qui le rend si spécial, Jésus. Et vous savez, si tu as un arbitre qui est envoyé par le gouvernement, tu n'es pas super en confiance quand tu es syndicaliste. Right? Non, envoyez-nous un gars d'un autre syndicat. Là, on va être en confiance, right? Un autre comme nous, qui veut se battre pour nos droits, qui n'est pas juste en train de penser de sauver de l'argent, là. Et là, le gouvernement décide, OK, entre les infirmières, puis le gouvernement, puis toutes les gens qui travaillent dans la fonction publique, on va prendre un autre syndicat de l'Ontario. Un des vôtres, très respecté, il s'est montré juste, on va l'amener. Ah, là, tout à coup, les syndicats locaux, qu'est-ce qu'ils font? Ah, quelqu'un comme nous, un autre syndicat qui veut notre bien. Vous suivez ici? Dieu envoie un autre être humain, un humain, mais Dieu incarné en homme, qui vit tout ce qu'on vit, toutes les tentations, toutes les souffrances, toutes les anxiétés, toutes les frustrations, toutes les injustices, tout le mal que les êtres humains se font l'un à l'autre, mais sans péché. Voilà notre arbitre, un comme nous, un comme moi. Et c'est ce qui rend Jésus unique. Dieu fait homme, devenu mon arbitre entre moi et Dieu. Et qui, là, vient harmoniser le problème de la souveraineté de Dieu, de la décision humaine. C'est possible tout à coup d'avoir une invitation de Dieu. Et c'est possible maintenant pour l'être humain de répondre à Dieu favorablement à cause de l'arbitre, du médiateur. On se comprend? C'est possible la prière car il y a un médiateur. C'est la première image. À cause de Jésus. La deuxième image qui est utilisée, c'est celui de rançon. Regardez au verset suivant, 6. Et en passant, vous savez, ce besoin-là de médiateur, là, ça ne date pas d'hier. Écoutez bien les paroles de Job il y a 4000 ans. Qu'est-ce que Job priait à Dieu? Chapitre 9, verset 33. « Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. » Il est le seul à avoir qualifié Jésus pour ça. Qui vient mettre la main entre les deux, qui vient régler la situation. Job avait un « craving ». Un désir pour ça. Et Jésus est la réponse. Mais ce qui rend possible la réponse, c'est ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que fait? Il est au verset, j'allais pas changer de diapo, mais c'est dans ma Bible tout simplement, qui s'est donné en rançon pour nous. C'est parce qu'il a fait un paiement, ce médiateur-là. Donc, ce n'est pas n'importe quel médiateur syndicaliste, là. Il vient offrir un paiement lui-même. Il dit, moi, je vais venir régler votre conflit, je vais faire le paiement qui règle le conflit. Mais voyons donc. Vous avez déjà vu ça, un arbitre, faire ça dans un couple? « Ah là, tu me dois 25 000! »« Non, non, moi, je pense que c'est 30! » Ben, écoutez, moi, là, je vais donner ce que vous demandez chacun. Je vais régler ça. Bon, non, non. Ça n'existe pas, un arbitre conjugal comme ça. Gouvernement, vous voulez ça? Je vais vous donner ça. Vous autres, vous voulez quoi? Moi, règle ça, m'a payé. Voici le paiement, les deux vont être contents. Ben, voyons donc. Peut-être c'est simplifié. C'est une image. Mais il s'est donné en rançon. Il s'est donné comme paiement. Évidemment, l'idée de rançon, c'est de payer le rachat d'un esclave qui est perdu ou d'un prisonnier de guerre, qu'on paye une rançon pour le libérer de sa situation où il n'y aurait plus rien à faire pour le libérer. Il est sous une dette, il est sous un joug qui ne lui permet pas la liberté. Et là, il y a une rançon qui est payée pour libérer la personne. Jésus a payé la rançon. C'est ce qui fait que Jésus, homme, peut être médiateur, c'est qu'il paye en plus le prix qui permet la réconciliation entre les deux parties. Et c'est vraiment important comme vérité ce qu'on nous dit ici. C'est ce qui permet la prière, Jésus, et ce qu'il a fait. Et là, Paul nous dit ensuite de ça, pour combler tout ça, son rôle là-dedans. Regardez bien. Et rançon pour nous tous, tel était le témoignage qui fut rendu au temps fixé, l'expression de temps fixé, au moment fixé par Dieu dans l'histoire, les prophéties, que ça arrive à ce moment-là que la rançon soit payée, comme c'était annoncé dans les prophètes. C'est ça qui parle du temps fixé. Et pour lequel, moi, j'ai été. Là, on est passé de ce que Christ a fait, médiateur, il a rançonné pour nous. Et là, maintenant, Qu'est-ce que Paul fait en réponse à ça? Moi, j'ai été placé, établi, proclamateur ou héros et apôtre. Et je dis vrai, je ne mens pas. Je suis enseignant des nations. Je suis un prédicateur auprès des nations de la foi et de la vérité. Fait que donc, une fois la médiation faite, qu'est-ce que le roi fait? Il envoie un proclamateur annoncer la nouvelle. Voici comment on définit un héros. Héros étant quelqu'un qui avait des nouvelles importantes à annoncer. Il annonce souvent un événement athlétique ou une fête religieuse proclamée par le roi. Ou fonctionnait comme un messager, un porteur d'une nouvelle ou d'un ordre de la cour du roi. Voilà ce qu'un héros faisait, le proclamateur. Il devait avoir une voix forte et proclamer son message avec vigueur et conviction, sans s'attarder à des discussions. Non, moi, je viens de donner un message. Je vais le tester avec toi, là. C'est ça, la proclamation. Je suis pas là pour débattre si c'est vrai ou pas vrai, ce que tu en penses, ton opinion, je m'en fous. Je proclame ce que le roi a dit. C'est tout. Le héros, c'est ce qu'il vient faire. Tu n'es pas là pour t'ostiner avec lui. Et tu n'es pas là pour t'ostiner avec les gens à qui tu l'annonces. Il dit, moi, je suis ce proclamateur-là de cette grande nouvelle. La principale qualité du héros était de représenter ou de rapporter fidèlement la parole de celui qu'il avait envoyé. Il ne doit pas être original. Son message doit être celui, il ne doit pas être celui d'un autre, que celui du roi, uniquement. C'est ça le rôle. Et dis-moi, j'ai été établi, je vous le dis, je ne mens pas, j'ai été établi comme l'enseignant dans les nations pour être le héros qui annonce cette nouvelle-là incroyable, qui permet que quand tu pries, tu es entendu à cause de l'Évangile de Jésus-Christ. Que quand tu pries, ça a un impact et que Dieu, ça l'affecte à cause de Jésus-Christ. Que quand tu pries pour un homme perdu, ça a un impact sur cet homme-là à cause de Jésus-Christ. Vous me suivez? Jésus est le grand médiateur qui rend possible la prière. Et si vous savez ce que ça veut dire? C'est que quand je ne prie pas, je suis en train de négliger le message de l'Évangile. C'est ça que ça veut dire. Que ça fait partie de l'évangélisation du monde, la prière. Que quand on envoie une personne qu'on donne son salaire, 6, 7, 8 églises, qu'on envoie comme missionnaire, c'est pas lui seulement qui amène l'Évangile, c'est tous ceux qui prient pour lui, qui le supportent et qui sont là en train de prier, « Seigneur, aide ce couple-là là, qui est en Afrique du Nord puis qui doivent repartir, puis qui ont des âmes à cœur, puis là, ils s'en occupaient, puis ils s'en vont, puis ils n'ont pas le choix, puis la police l'a arrêté. » On te prie pour ces âmes-là. On est en train de faire l'œuvre de l'Évangile. On est en train de montrer qu'on croit dans ce que Jésus-Christ a fait, en qui il est et son salut, et que c'est ça qui est sur le cœur de Dieu. On manifeste notre foi par la prière pour tous. Et donc, si je ne prie pas, qu'est-ce que ça dit aussi sur ma foi? Est-ce que vous me suivez? Il y a quelque chose qui est affaibli, qui manifeste la faiblesse de ma foi par mon manque de prière. Pas pour rien que devant une telle situation, qu'est-ce qu'ont dit les disciples? Hein? Ah, Seigneur! Augmente notre foi. Il était gêné. Et peut-être on se sent comme ça. Augmente ma foi, Seigneur. Parce que clairement, il y a des choses qui me manquent. Parce que c'est clair que je ne prie pas assez. Et c'est lié à l'Évangile. Ce n'est pas deux choses séparées. C'est un tout. Et finalement, mon attitude dans la prière. Et je ne m'attarderai pas ici à trop de détails, mais il revient ici avec cette phrase « donc » qui est en train de conclure à la fin du message. Et là, il touche ici, « je donc que les hommes prient en tout lieu. » Et là, ici, oui, peut-être certains ont remarqué, je n'ai pas traduit « humain ». C'est l'homme au masculin ici, l'homme mâle, ce n'est pas le même mot exactement. Et donc, il dit « je veux que les hommes au masculin prient en tout lieu ». Il ne dit pas que les femmes ne peuvent pas ici, en passant. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Parce qu'évidemment, il parle dans 1 Corinthiens, chapitre 11, hein. Quand les femmes, quand les hommes prient, ils mentionnent, donc ils prient à l'Église. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas prier, mais certainement ici, il faudrait dire, en transition avec ce qui s'en vient dans les versets qui suivent, que l'homme a un rôle de leadership ici dans la prière, certainement. Et souvent dans l'Église, c'est plus les femmes qui vont avoir un rôle de leadership de prière dans l'Église. On remarque souvent des groupes de prière de femmes. un peu moins de groupes de prière d'hommes? Ça vous surprend? Mais malheureusement, comme hommes, souvent, on n'est pas les leaders de prière qu'on devrait être. Et Dieu dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, n'importe où, où ce que l'Église se réunit, parce qu'il n'y avait pas toujours des bâtiments d'Église, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui prie, il a une attitude très simple. L'humilité devant Dieu, qui prie les mains, mais ce n'est pas l'idée que les mains, ce n'est pas la posture comme telle qui compte. Tu peux être comme ça, là, puis finalement, ton cœur est hautain, puis il y a une calotte sur la tête, puis il se fout de Dieu, là, tu sais, là, manière de parler. La posture extérieure, qui lève des mains, mais là, il définit les mains pures, des mains saintes. Et c'est possible d'avoir des mains saintes si on a premièrement reçu Jésus-Christ. Et il est possible d'avoir les mains saintes parce que Christ nous fait grandir dans la sanctification puis nous garde dans une pureté. Naturellement, on ne l'est pas. Et là, il touche d'autres problèmes, comme celui de dispute, celui de colère. Il n'est pas en train de dire que parce qu'il parle à des hommes ici, c'est les hommes qui sont plus tendance à être en colère. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Je ne veux juste pas que les hommes soient en train de prier à Dieu puis se foutent de leur relation avec qui ils sont en colère autour. Des gens avec qui ils sont en contestation puis sont en chicane puis qui n'ont pas les mains pures. Ah, il ne dit pas non plus, prions seulement ceux qui sont parfaits. C'est pas ça qu'il est en train de dire non plus. Il est en train de dire, quand tu t'approches de Dieu, assure-toi de t'approcher de lui en ayant réglé tes affaires. Vous vous rappelez quand il va au temple porter ton offrande, Jésus, dans le chapitre 5, ça monte sur la montagne, il dit, d'abord, il ne dit pas, va pas au temple régler, donner ce que tu veux donner au Seigneur. Mais d'abord, va régler le conflit que tu as avec quelqu'un. Fait que l'idée de régler le conflit ne devrait pas être un obstacle à y aller, ça devrait être un incitatif à le régler en vue de. Vous me suivez? Et à un moment donné, dans Pierre, il va parler de ses hommes et les femmes, la relation. Puis à un moment donné, il dit, règle tes affaires avec tes femmes puis traite-la bien parce que ça va faire obstacle à tes prières à Dieu. Ah! Peut-être que certaines de mes prières à Dieu, je suis en train de... C'est une espèce de grosse course à obstacles parce que j'ai tellement de conflits avec ma femme puis que je suis tellement pas fin avec ma femme que c'est une course à obstacles, mes prières à Dieu, parce que ça fait obstacle à ma prière à Dieu. C'est ce que Pierre dit, vous savez. Et dans d'autres passages aussi, où il parle de choses qui font obstacle à la prière. Il ne dit pas d'être parfait. Il dit, quand tu le sais que tu as fait quelque chose, réglé. Tu as des problèmes de colère, demande pardon à Dieu. Ça t'amène en conflit avec les gens. Tu es en guerre avec quelqu'un, tu es en conflit, tu as de l'animosité. Va le régler avant d'aller prier. Parce que c'est ça qui fait plaisir à Dieu. Puis si Dieu te le montre, te le fait, ben là, traîne pas ça. Il ne dit pas, on va plus prier. Ah ben là, je ne peux pas prier, je suis en conflit, là, fait que je ne pourrais pas prier aujourd'hui, désolé, gang. Ça, c'est la paresse spirituelle. Ça, c'est l'orgueil qui ne veut pas régler. Si je sais que j'ai quelque chose, il dit, régler. Peut-être que tu ne peux pas le régler avec la personne parce que la personne ne veut pas, mais toi, parle-en à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai tel conflit, j'ai eu telle part, j'ai demandé, elle ne veut pas me pardonner, ou il ne veut pas me pardonner. J'ai essayé de le contacter, il ne répond pas à mes courriels, mon téléphone. Mais fais ce qui t'appartient, à la mesure du possible, de vivre en paix les uns avec les autres, particulièrement dans le corps de Christ. Et là, ici, il touche l'attitude que je suis invité à avoir, une attitude humble, une attitude de dépendance en Dieu, une attitude de régler mes conflits avec les autres et de ne pas les laisser traîner. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Et que c'est important pour Dieu. Parce que c'est comme la trace que Noé m'a laissée dans les lunettes de Louis-Philippe. Personne n'aime ça, des traces sur des lunettes. Puis à force d'en avoir, qu'est-ce qui arrive? Tu vois plus clair, tu vois juste les traces. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. J'aime pas ça, avoir des traces de lunettes. Règle-les, nettoie-les. Je vais t'aider à le faire. Je te donne même pas ça tout seul à régler tes conflits. Je te permets de les régler à cause de Jésus. Je te donne les forces par le Saint-Esprit. Je te donne la parole comme guide. Je te demande pas de faire quelque chose qui est impossible pour toi. Les taches dans les lunettes, tu peux les nettoyer pour que tu puisses voir clair et que tu puisses prier en harmonie avec la volonté de Dieu. Amen. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est sûr qu'avec ce qu'on vient de lire, c'est « Seigneur, change mon cœur, Seigneur. » On l'a chanté tantôt. « Change mon cœur, Seigneur. » Mais prions pour nos dirigeants, les amis. Merci, Seigneur, pour ce policier très gentil qui est venu cette semaine, vendredi. C'était agréable, jaser avec. Il connaissait un autre chrétien, il connaissait une personne qu'il avait adoptée. On a eu une belle conversation et on a eu l'occasion de s'en présenter l'Évangile, le témoignage auprès de lui. Et l'homme a été vraiment gentil. En fait, tous les policiers, et j'en ai rencontré plusieurs à travers les années, les policiers et policières, c'est pas parce que j'ai été arrêté, là. ni parce que j'ai eu des tonnes d'étiquettes, c'est pas ça. Okay? Mais j'en ai rencontré à travers les années. J'ai rencontré que des policiers, des policières très agréables en général que j'ai rencontrés. C'est quand la dernière fois qu'on a prié pour nos policiers, policières, alors qu'ils se font surtout chialer après pour l'étiquette, chialer après pour ci, pour ça, qu'on voit des vidéos sur les moins bons policiers qui font des interventions de contrôle excessifs. C'est quand on a prié pour nos policiers, policières. On a même prié pour des juges dans des sentences, plutôt que de chialer contre les juges qui ont fait telle affaire, puis qui ont libéré telle personne. Puis nous, on n'a pas tous les détails, vous savez. On est prétentieux à l'extérieur, là, puis oui, on a des jugements de même. On n'a pas tous les détails de la preuve qui ont été présentés. Puis là, tout de suite, on prononce, gardons de l'humilité, prions pour les juges qui ont une tâche extrêmement difficile, qui fait basculer des vies en prison pour des nombres d'années, qui font sentir que les gens sont dans une situation où la justice qui se fait exécuter ou de l'injustice qui est exécutée devant eux. C'est quand la dernière fois que j'ai prié pour mon premier ministre, pour mon député, ma députée. J'ai prié pour son bien, prié pour ses enfants, prié pour son salut. En sachant que quand je prie pour lui, pour elle, vous savez ce qui arrive? C'est bon pour ma paix extérieure et intérieure. À travers les années, on a essayé comme Église de bâtir des bons liens. On a eu plusieurs députés. Je texte de temps en temps avec l'ancien maire. On a des contacts avec la majorité des députés qu'on a eus dans la région. On essaie de garder des bonnes relations avec les gens qui sont en autorité, avec notre échevin, ou notre conseiller municipal plutôt. L'échevin, c'est peut-être vieux, là. Prions pour eux. Et prions parce qu'on peut prier à cause de Jésus. Prions parce qu'on veut qu'ils connaissent Jésus. Notre vision, c'est quoi? Aider toute personne à entrer en relation avec Jésus. Pourquoi? Pour qu'on puisse grandir avec Jésus, qu'on puisse partager la foi après ça et qu'on puisse servir Jésus, l'Église et le monde autour de nous. Comment? Prions pour eux. Faisons-le maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, on veut te prier ce matin en terminant, parce que trop souvent, on chiale contre le gouvernement, et je m'inclus dedans, Seigneur, le premier. C'est si facile. Et on a, Seigneur, des rencontres régulièrement entre nous, où on règle tous les problèmes des gouvernements, nous, en groupe. On est comme ça, les humains. On a toutes les réponses pour ceux qui ne font pas une bonne job. On te demande pardon, Seigneur, pour notre arrogance, de tout régler les problèmes d'une façon si simple, alors que ce n'est pas si simple. Alors que des gens qui sont là et qui ne trouvent pas ça facile d'avoir cette position de décideur, de gouverner, d'avoir cette pression. Et Seigneur, je ne prie pas pour leur âme, je chiale après eux autres. Je te demande pardon, Seigneur, dont je suis le premier. Je te demande pardon de ne pas penser à leur besoin de connaître Jésus, de leur mettre des attentes sur le dos qui sont injustes parce qu'ils n'ont même pas rencontré la connaissance de la vérité, de la bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ. Et je place des attentes sur eux sans même prier pour eux. Oh Seigneur, on te prie pour, dans chacun de nos quartiers de notre ville, ces conseillers municipaux qui se chicanent à la ville, qui ont de la misère à dialoguer, de s'écouter, de décider des décisions ensemble. On te prie pour le maire de cette ville. On te prie, Seigneur, pour les députés provinciaux et fédéraux dans notre région, Seigneur, qui ont des rayonnements comme ministres, comme dans la gouvernance locale. On te prie pour notre premier ministre au Canada, M. Trudeau, qui interagit avec les ministres du monde entier. On te prie, Seigneur, pour ces gouvernements qui font du mal à leur pays par des guerres qu'ils pourraient arrêter, mais dont l'orgueil les bloque parce qu'ils sont humains. Parce qu'ils sont comme nous, biaisés. Ils ont des visions de l'autre comme moindres qu'eux. Et ça permet de prendre des décisions dures envers l'autre et de prendre à la légère la vie humaine. Oh Seigneur, on veut te prier, pas juste qu'ils prennent des bonnes décisions, on te prie pour leur salut, qu'ils connaissent Jésus. Parce que seul Jésus peut changer leur vie. Changer de gouvernement, laisser la vie à des personnes, prendre des bonnes décisions, ne donnera pas le salut en Jésus-Christ pour eux. Ça ne leur donnera pas la vie éternelle. Ça ne donnera pas la vie éternelle au peuple, Seigneur. On te prie pour le salut de tous les âmes, Seigneur. de ceux qu'on est capable de nommer par nom autour de nous, de ceux qu'on s'est exaspéré et qu'on a de la misère à croire qu'ils peuvent se sauver, à ceux qu'on ne connaît pas de nom. Et nous voulons te prier à cause de ce que Jésus a fait. Merci qu'on peut te parler, qu'on est entendu et que le roi des rois nous entend parce que son fils Jésus-Christ a payé la rançon. Te payer, Seigneur, dans ton arbitrage, par ton fils, le moyen que je puisse te parler, que je puisse être entendu, que mes prières puissent être importantes pour toi. Pardonne-nous, Seigneur, comme Église, que la prière n'est pas dans la liste des priorités, des activités de cette Église. Je te demande pardon, Seigneur. Fais-nous grandir comme Église, à manifester notre foi en te priant, de toutes sortes de prières, à écouter les uns les autres, comme ça nous fait souvent du bien, Seigneur, d'écouter la prière des autres, auxquelles je me joins, auxquelles je suis édifié, d'entendre les vérités qui sont dites, ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Ça me fait tellement du bien, Seigneur, lorsque je prie avec d'autres. Je reçois plus, Seigneur, que je peux donner lorsque je prie avec d'autres personnes. C'est souvent les plus grands moments, Seigneur, que j'ai avec toi, d'émotivité, lorsque je prie avec des frères, avec des sœurs, lorsqu'on prie comme conseil d'anciens. Oh Seigneur, fais-nous grandir dans notre foi en toi, en ton Fils Jésus, et que cela se manifeste dans la prière. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.